Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes donc accueillis au séminaire interprovincial Saint-Cyprien à Toulouse, où nous sommes reçus dans le cadre de la journée des prêtres du Congrès Mission 2021. Bienvenue à notre table ronde qui s'intitule « La transformation pastorale, si on parlait vrai ». Voilà. Je suis donc l'animatrice de cette table ronde, Sœur Espérance, de la communauté de la Croix Glorieuse. Je suis aussi responsable du service diocésain de la pastorale des jeunes et membre du réseau Transformation pastorale du diocèse de Toulouse. Donc je vais vous présenter nos intervenants brièvement. J'ai mis plus d'informations sur le diaporama parce qu'ils sont vraiment, je vous l'ai dit, ce sont vraiment des personnes d'expérience. Alors je vous présente peut-être pour commencer Madame Béatrice Debain, qui est laïque, mariée, coach, engagée dans Talentéo et directrice du programme Scoladeo, dont vous trouverez des flyers en sortant de cette table ronde à ma droite. Scoladeo, c'est un service qui accompagne les responsables de l'enseignement catholique afin de les aider à porter une vision et un leadership éducatif et pastoral. Vous me corrigez bien sûr si je mets des choses ou si ce n'est pas juste. Voilà. À votre gauche, Madame Béatrice Debain, vous avez Madame Evelyne Delavergne, qui est laïque, mariée, déléguée diocésaine pour les aumôneries d'enseignement public et pour les aumôneries aussi d'adolescents en paroisse du diocèse de Toulouse. Elle est engagée dans la transformation pastorale à travers ses missions, la mission qu'elle a actuellement et les précédentes. Elle vous en parlera. Vous avez à la gauche de Madame Evelyne Delavergne, vous avez frère Pierre-Yves Noyer, qui est membre de la communauté de la Croix Glorieuse et curé de la paroisse de l'Immaculée Conception à Toulouse, où il conduit une transformation pastorale depuis plusieurs années. Vous allez nous en parler aussi. Et à ma gauche, je termine avec Monsieur Nicolas de Chezel, qui est un laïc marié, engagé dans la communauté de l'Emmanuel, membre de l'équipe Alpha France, pour laquelle vous êtes délégué à la transformation pastorale et missionnaire. Vous préciserez sans doute les deux termes tout à l'heure. Vous êtes ainsi, donc, Madame Béatrice Debain, vous êtes engagés tous les deux dans les parcours des pasteurs selon mon cœur. Donc peut-être que leurs visages ne vous sont pas inconnus. Voilà. Comme vous avez vu que le temps nous est compté, la table ronde est assez brève, eh bien nous allons entrer dans le vif du sujet. Peut-être que vous avez entendu parler de cette thématique plus ou moins en bien, plus ou moins en mal. Peut-être que pour vous c'est quelque chose de totalement inconnu ou alors de très excentrique ou alors encore quelque chose à la mode. Eh bien nous allons commencer pour répondre à cette problématique par cette question que je vais... Alors nous avons préparé ensemble, hein, donc je ne les prends pas à l'improviste, mes chers intervenants. Donc par cette première question, qu'est-ce que c'est que la transformation pastorale? Alors je vous laisse la parole, je vous propose de répondre en une phrase, et puis ensuite chacun pourra développer, on continuera notre conversation tranquillement. Alors en une phrase, est-ce que je peux vous donner la parole en premier, monsieur de Chezel?
Allez prêcher. Et donc, oser s'engager dans une pastorale missionnaire, quitte à changer de méthode et d'organisation.
Nicolas a déjà presque tout dit. Hein. Donc, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Pour moi, la transformation pastorale, c'est vraiment un changement de modèle, de paroisse. C'est vraiment passer d'une paroisse d'un modèle un peu conservateur où on fait comme avant, à un nouveau modèle pour aller vraiment toucher les périphéries que le pape François nous invite à toucher. C'est répondre à l'appel de tous nos différents papes depuis plus de 50 ans maintenant, d'aller toucher ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui le connaissent de loin. Donc c'est aller vraiment répondre à leurs besoins à eux. C'est passer finalement d'une logique de pastorale de paroisse qui s'adresse aux fidèles à une paroisse qui s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui ne l'ont pas rencontré.
Alors pour moi, la transformation pastorale, c'est vraiment un changement de l'être et du faire. Et c'est également construire des communautés de vie ensemble, de disciples missionnaires.
Mes amis ont déjà dit tout à peu près. Pour moi, il y a une équivalence entre transformation pastorale et conversion missionnaire. vous changez transformation et conversion, vous changez pastoral et missionnaire, et ça marche dans tous les sens en fait. Donc l'enjeu, c'est de changer la culture d'un groupe de chrétiens pour qu'ils deviennent résolument missionnaires et que ça ne repose pas sur quelques privilégiés ou une élite, mais que ce soit vraiment l'affaire de tous. Et comme c'est une question de conversion, et ben ça concerne tout le monde et ça commence par le pasteur et ensuite de proche en proche, tout le monde.
Je vous remercie. J'aimerais qu'on poursuive. Alors déjà, il y a beaucoup de sujets en fait à travers vos propositions de définition qui sont sorties. Peut-être que vos oreilles de prêtre ont sifflé quand vous avez entendu qu'il fallait s'occuper des gens à l'extérieur de la paroisse et pas à l'intérieur. Il y a des théologies qui peuvent se bousculer à travers tout ça. Alors on y reviendra un petit peu plus tard. Mais déjà, j'aimerais que vous puissiez nous partager votre intérêt profond pour la transformation pastorale. Pourquoi vous vous êtes engagé, vous, sur cette voie-là, dans vos missions respectives? Pourquoi avoir fait ce choix? Quel intérêt? Quels sont les fruits que vous en avez goûtés dans votre mission? Voilà, quels sont vraiment les fruits? Concrètement, on nous écoute, nos auditeurs sont des prêtres. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie? Voilà. Je repasse dans le même ordre, mais vous pouvez aussi vous passer le micro, il n'y a pas de souci.
En fait, j'ai été secoué après de nombreuses années par la communauté de l'Emmanuel à évangéliser, à annoncer le Christ dans la rue, sur les marchés, dans des tête-à-tête. Et puis avec Alpha, où on rencontrait des chercheurs de Dieu, où on leur parlait de Dieu, ils découvraient Jésus. Mais ensuite, la question se posait, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va les faire grandir? Comment est-ce qu'on va les accompagner pour qu'ils puissent progressivement accéder à une maturité spirituelle, de façon à ce qu'ils puissent aussi accéder à une vraie conversion de vie, et qu'ils deviennent pleinement disciples et missionnaires. Et c'est ça qui a été un déclencheur pour moi, et qui m'a donné envie de creuser la question de l'accueil, de l'accompagnement, de la formation et de l'envoi en mission.
Moi, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, au niveau de la paroisse, pendant de nombreuses années, on a été responsable du catéchuménat avec mon mari. Et en effet, alors on préparait le baptême avec ces catéchumènes, et on parlait toujours, dans les équipes diocésaines du catéchuménat, du problème de l'après le baptême. Or, tout commence au baptême. Donc c'était toujours, moi j'étais vraiment triste de réaliser que il y avait beaucoup de néophytes perdus et qu'ils ne se retrouvaient pas forcément dans la structure paroissiale telle qu'elle existe, dans la structure au sens où aller dans un service dans une paroisse, c'est pas évident, aller à la messe, c'est pas évident, même quand on a découvert le Christ et qu'on a décidé de se faire baptiser. Donc ça a été le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est au niveau de l'enseignement des établissements scolaires. Moi j'ai 4 enfants qui sont passés par l'enseignement catholique. Alors je fais pas du tout le procès là, mais j'ai vu aussi des jeunes qui n'avaient pas rencontré le Christ ne pas tant le rencontrer que ça dans ces établissements. Et voilà, je me suis vraiment posé la question de mais qu'est-ce qui manque, parce qu'il y a tellement de bonne volonté dans ces établissements scolaires, donc il se fait des choses, mais pourquoi la rencontre du Christ n'est pas si évidente pour tous ces jeunes loin de Dieu?
Moi, j'ai repris en 2012 donc une mission auprès des adolescents sur les secteurs paroissiaux de Carbonne et Caserne. Et il y avait donc une forte décroissance du nombre de jeunes accueillis à l'aumônerie. Il y en avait à peine une vingtaine. Et cette année-là, donc, avec le prêtre accompagnateur, on a commencé par accompagner des jeunes pour la confirmation. Ils étaient au nombre de 5, ils étaient en seconde. Ils ont fait leur confirmation au mois de novembre et on ne les a plus jamais revus. Et donc là, je me suis dit qu'en fait, si c'était donné tout ce temps et toute cette énergie pour que les jeunes n'aient même pas rencontré le Christ et n'aient même pas envie de rester, c'était pas possible, on perdait notre temps. Et donc c'est là où vraiment l'idée a germé de faire différemment et de faire autre chose et de réfléchir vraiment sur ce qu'on voulait vraiment pour ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'on voulait leur faire vivre, en fait. Du coup, lorsque je suis partie 6 ans après, il y avait donc toujours ces 2 aumôneries de collège, 1 aumônerie de lycée. Il y avait plus de 90 jeunes. Et cet été, en fait, j'ai co-animé un camp d'été avec une des petites 6e que j'avais au début où je suis arrivée à l'aumônerie. Voilà, donc je pense que ce témoin de disciple missionnaire est bien passé.
De mon côté, en fait, la transformation pastorale m'est tombée dessus parce que en 2010, j'ai été nommé curé ici à Toulouse. Et pendant 3 ans, j'ai fait ce que je savais faire. Et au bout de 3 ans, avec le frère prêtre qui était avec moi, on a fait le constat que ça plafonnait, qu'on n'arrivait pas à aller plus loin, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. On se donnait avec générosité, on faisait plein de choses, et puis ça plafonnait. Même constat que les néophytes, on en garde si peu, donc on sait les accueillir, mais on ne sait pas les garder. Et donc, ce constat-là, et puis constat d'impuissance en fait. Et la première chose qu'on a faite, c'est peut-être une inspiration, je pense, oui. On a décidé avec ce frère prêtre de prendre une année complète en paroisse pour prier le Saint-Esprit, en disant, mais Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que cette paroisse soit plus vivante, pour que qu'elle remplisse sa mission mieux, quoi. Et pendant 1 an, on a prié le Saint-Esprit, et les premiers fruits ont été très... m'ont fait bouger, m'ont déménagé intérieurement. La première chose, c'est que j'ai découvert des fruits, une fécondité dans le milieu évangélique protestant, ce que j'aurais pas regardé avant, parce que eux, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais il y a quand même des fruits d'accompagnement, de croissance, de fécondité, d'évangélisation qui sont magnifiques, et j'ai commencé à regarder ça, et ça m'a beaucoup touché. Une des choses qui m'a beaucoup touché, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est que on ne fait pas simplement que engendrer des personnes à la vie nouvelle, mais on sait les accompagner pour qu'ils grandissent jusqu'à devenir eux-mêmes des disciples qui soient missionnaires. Or ça, moi, je savais pas faire. Et dans ma communauté, pendant des années, je crois qu'on peut dire qu'on ne savait pas bien faire. Moi, j'ai pas beaucoup vu ça dans les paroisses où j'ai été engagé. Et donc ça m'a tout de suite intéressé parce que je me suis dit, mais oui, plutôt que d'engendrer des orphelins, il faut accompagner la croissance et ensuite en faire des chrétiens matures dans la foi. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup touché, que j'ai découverte tout de suite là, c'est cette histoire de vision. C'est-à-dire que Dieu a un projet pour l'Église. Alors bien sûr, Jésus nous le révèle... Et on le voit bien à travers les évangiles, on commente tous les dimanches et même tous les jours les textes sacrés. Mais comment est-ce que c'est actualisé aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est même pas un monde qui change, comme dit le pape François, mais qui est un changement de monde. Et il y a quelque chose de résolument différent, résolument nouveau à accueillir parce que le monde change. Et donc cette histoire de vision, c'est quelque chose à recevoir de Dieu qui nous montre vers où il faut aller. Et on a travaillé dans ma paroisse, on a travaillé cette histoire de vision. Au bout d'un an, on en a écrit une et elle nous fédère et elle nous a donné une grande, grande impulsion qui a ensuite conduit à la transformation de la paroisse.
Merci, frère Pierre-Yves. Alors, vous avez vu, frère Pierre-Yves, il a anticipé 3 questions que j'avais à poser à tous les intervenants. Il est fantastique. Donc, je vais redonner la parole aux autres intervenants aussi. Donc, peut-être la première question, ce sera celle du processus, parce que c'est un mot qui n'est pas encore sorti, mais dans notre préparation, vous m'avez parlé tous les 4 d'un processus intentionnel. La transformation pastorale, ça veut dire un processus intentionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? La deuxième question, ce sera celle sur la vision. Donc, Pierre-Yves a anticipé, mais voilà, comment est-ce que vous voyez cette vision ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans la transformation pastorale ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ou est-ce que, comme disait il y a quelques semaines en arrière, me disait un curé, moi j'ai toujours fait sans vision et je me porte très bien. Et donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Qui veut commencer ? Nicolas, je vois Nicolas dans les starting blocks.
Je suis très attaché à l'expression processus intentionnel. En fait, vous ne le savez pas, mais je suis général dans les forces armées françaises. Je suis habitué à aller au but. Et pour ça, il faut savoir où est le but. Il faut avoir envie d'y aller. Il faut déterminer comment on va y aller. Et en fait, être intentionnel, c'est ça. C'est savoir où on veut emmener les gens et réfléchir comment on va les y emmener et concentrer tous nos efforts sur cet objectif, les emmener là. Je veux qu'ils découvrent cette réalité spirituelle. Je veux qu'ils apprennent à appartenir à une communauté. Je veux qu'ils grandissent dans un élan missionnaire. Et ben, si c'est ça le but, comment est-ce que je vais faire pour les y amener? Je vais pas laisser le hasard faire le travail. Je vais réfléchir au but, aux moyens, et je vais accompagner et emmener chaque chrétien là où je veux qu'il aille pour le bien de l'Église et de la mission.
Pour moi, quand on parle transformation pastorale, il y a ce qui est de l'ordre de vraiment de ce qui est essentiel, et puis il y a les moyens en effet pour y arriver. Dans ce qui est essentiel, il y a deux choses. Il y a un peu l'écosystème que vous voulez créer pour dans votre paroisse pour donner. Vous savez, c'est le voyez comme il sème. Hein. Comment se vit notre vie paroissiale? Comment elle s'alimente de ces cinq essentiels que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est vraiment le biotope, l'écosystème dans lequel on invite les personnes et on s'invite nous-mêmes à grandir hein, spirituellement. Je vais les nommer ici, hein, mais il s'agit de la prière, de la fraternité, il s'agit du service, de l'évangélisation et de la formation. Et puis il y a une deuxième chose essentielle, c'est ce processus. Et quand on parle processus, on parle aussi accompagnement. C'est-à-dire, c'est de voir comment chaque personne a besoin d'être accompagnée personnellement sur sa route avec le Seigneur, qu'elle soit très loin de l'Église, comme ayant fait déjà l'expérience de l'amour de Jésus sur elle, et voilà. Donc il y a vraiment ces deux éléments, moi, que je trouve très très importants dans quand on commence à réfléchir à la transformation pastorale de sa paroisse, de sa communauté, ça peut être aussi un établissement scolaire, hein. Et quand on parle de communauté, voilà. Et puis enfin, il y a cette fameuse vision. Et là, c'est en effet le cap. Qu'est-ce qu'on se donne comme cap? Qu'est-ce qu'on a comme image à quelques années à venir de ce qu'on veut que notre communauté soit faite? Voilà, c'est et cette image que l'on a de notre communauté à 3, 4, 5 ans, c'est ce qui va aligner nos énergies, c'est ce qui va nous dire bon ben on va par là et pas par là. Donc au moment du choix de ce qu'on va proposer dans ce fameux processus de croissance spirituelle, on va faire des choix en fonction de la vision que l'on a.
Donc, en ce qui me concerne, à l'aumônerie, c'était la première étape a déjà été une conversion personnelle, en fait. Et quand je dis une conversion personnelle, c'est dans l'être, hein, c'est réinterroger ma propre relation au Christ, et aussi c'est de vivre dans l'unité, parce qu'on a tendance à tout découper, le métier, la famille, et puis ce qu'on vit à l'aumônerie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout et qu'il fallait vraiment être dans son intégralité partout où on était. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Ensuite, c'est changer comment être avec les jeunes. On est sur un chemin avec eux. Parfois, on est devant eux puisqu'on a de l'expérience. On a fait cette rencontre réelle avec le Christ. On peut en témoigner. Parfois, on est à côté d'eux et on grandit avec eux. On réexpérimente avec eux ses relations avec le Christ, et c'est très important d'être à un moment donné à côté d'eux. Et puis au final, on finit souvent derrière eux, puisqu'ils sont devant, évangélisateurs, ils vont chercher d'autres jeunes par eux-mêmes, et on est juste derrière eux pour voir que ça se passe bien. Et ça change vraiment notre façon d'être au milieu d'un groupe de jeunes, totalement. Ensuite, il y a d'autres étapes qui concernent notamment le fait de pouvoir entraîner d'autres adultes avec nous, d'autres chrétiens, Moi, dans mon cas, c'était donc les animateurs hein, de jeunes, les accompagnateurs. Il y en avait une quinzaine. Et donc là, ce qui a été vraiment fondamental, c'est à partir de la vision qu'on avait déterminée plus ou moins avec le prêtre accompagnateur, c'est de pouvoir les faire travailler un projet en co-construction et qu'ils s'approprient vraiment eux-mêmes ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour faire grandir spirituellement ces jeunes. Voilà.
Merci. Pierre, frère Pierre-Yves ayant déjà répondu aux questions, je reprends le micro. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais, puisque je vous entends parler de processus intentionnel, de conversion, de vision, j'aimerais savoir, moi, par où commencer. Quand on veut entrer en transformation pastorale, par où on commence? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je suis un prêtre, curé de paroisse, vicaire près des jeunes, etc. Par où je commence? Le premier pas. Et puis, comme ça je vous prépare aussi, vous allez pouvoir nous répondre aux deux questions à la fois. L'Esprit Saint là-dedans, mais là où est-ce qu'il est rendu? Parce que l'Esprit Saint est protagoniste de la mission. Eh oui, alors est-ce que ça va bien avec tous nos plans, nos stratégies, tout ça dans la transformation pastorale? Voilà, à vous la parole.
Alors, j'ai en tête cinq grands chantiers qui sont critiques pour mettre en mouvement la communauté paroissiale. Ces cinq chantiers étant, j'ai dit très rapidement, cinq chantiers étant la vision, les structures, la formation des leaders, la culture de la communauté et la stratégie. Mais pour commencer, je crois que le premier chantier à commencer, ou peut-être les deux premiers chantiers, c'est de travailler sur la vision, mais surtout de travailler sur la culture. La culture, c'est-à-dire ce qui est vécu, ce qui est célébré, ce qui est accepté, ce qui est partagé. Et peu à peu, introduire une culture d'invitation, une culture d'accueil, une culture de partage, une culture de témoignage, une culture de fraternité, une culture d'appartenance. Et c'est cette culture qui, peu à peu, va faire changer le fond et va permettre aux autres chantiers de porter du fruit.
Moi, je reprendrai un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur la conversion. En fait, moi, j'aime bien, quand on parle de transformation pastorale, j'aime bien aussi parler de conversion, parce que il y a, on peut en effet avoir plein de mettre en œuvre plein de choses humainement, mais si on ne donne pas à voir ce que l'on prône, on est un peu dans vide dans le désert. Et la conversion personnelle me paraît vraiment essentielle. La conversion personnelle du prêtre, des laïcs qui l'entourent, de ces fameux fidèles, et puis plus largement de ceux qui peu à peu seront gagnés par le Christ. Cette conversion personnelle qui s'accompagne aussi d'une conversion relationnelle. Comment je rentre en relation? Comment j'instaure une culture de la... Merci Nicolas, j'aime beaucoup ce mot de culture. Cette culture de la bonne relation, de la relation bienveillante, de la relation qui fraternelle, vraiment, où on peut se dire les choses, où on peut même vivre dans la correction fraternelle. On donne quelque chose à voir de ce qu'était la première église, hein, quand on petit à petit on instille cette culture dans sa paroisse, dans sa communauté. Et après on donne à voir, voilà. Enfin, moi je reprendrai aussi j'ai monté le parcours Alpha avec mon mari dans notre paroisse quand on a commencé à initier un processus de transformation pastorale avec notre curé. L'une des grandes forces de ce parcours Alpha, quand on essaie de le faire avec l'esprit qu'on nous demande de le faire, c'est cet esprit d'accueil, et c'est donner à voir ce qu'est une communauté d'amoureux du Christ, en fait, hein. Donc une communauté d'amoureux du Christ, c'est accueillir avec le sourire, la bienveillance, l'attention à l'autre, et déjà on touche des cœurs par cela. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça de commencer, Et l'Esprit Saint est là pour évidemment il nous accompagne et il nous donne beaucoup de beaux cadeaux quand vraiment on lui remet tout entre les mains.
Donc, le prêtre accompagnateur à l'aumônerie de Carbone-Cazar, ce qu'il a commencé à faire, ben, c'est m'aider à me convertir. Donc déjà, voilà, donc on est passé à deux. Et puis, on a aidé à la conversion des autres animateurs. Donc, on est passé, ben, on était 17, voilà. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est justement montrer une communauté de vie pour ben, la donner un exemple aux jeunes qu'on allait accueillir. Et donc, nous avons commencé à nous réunir nous-mêmes hein, pour faire des repas fraternels, pour faire des formations, pour prier ensemble, etc. Pour revenir à la question de l'Esprit-Saint, oui, il était déjà là avant nous. Hein. Et avant qu'on ait cette révélation, c'est simplement nous, en fait, qui avons changé et qui avons appris sans doute à lire les signes et qui y apportons beaucoup plus de d'attention par la prière, par la relecture, vraiment et en s'interrogeant tout le temps et en expérimentant tout le temps. Moi, je pense que c'est voilà une dimension qui a changé. Au lieu d'être statique, on se met en mouvement. Et dans ce mouvement-là, l'Esprit-Saint, en fait, il est avec nous tout le temps sur la route, en fait. Et la transformation, elle se fait petit à petit, tout en cheminant. On marche et la transformation se fait dans le mouvement.
Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Commencer par la vision et la culture, en effet, sachant qu'une vision, ça prend quelques mois ou un an, comme chez nous, pour l'écrire. La culture, ça prend des années. Donc, il faut pas trop attendre pour l'en changer, la culture. Faut lancer le plus vite possible, pardon. Culture d'accueil, de fraternité et d'invitation, qui me semble effectivement essentielle. J'ai envie simplement d'illustrer la présence du Saint-Esprit dans notre expérience. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on avait prié pendant un an. La vision que nous avons reçue au bout d'un an de travail avec une équipe de laïcs que j'ai réunis autour de moi, c'était celle-ci, former et envoyer des disciples missionnaires joyeux, témoins de l'amour de Dieu, pour consoler, accueillir et aimer les habitants de bonne foi, c'est le quartier où nous sommes, dans l'Esprit Saint avec Marie. Voilà, c'est une phrase qui a été énormément travaillée dans tous les sens. Au tout début, on s'est beaucoup focalisé sur le début. Ça a été travaillé, mais reçu dans la prière, attention. Reçu dans la prière, cette phrase. On s'est au tout début beaucoup focalisé sur les premiers verbes, former et envoyer des disciples missionnaires. Donc on a beaucoup travaillé la question du processus justement. Et puis au moment de la crise du Covid, tout d'un coup il y a les verbes du milieu là qui nous ont sauté au visage pour consoler, accueillir et aimer. Et on s'est dit, ah Saint-Esprit, tu avais préparé les choses. Parce que vraiment ça prend du sens pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette vision-là, c'est comme si elle s'était déployée, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui l'avait prévu.
Est-ce que je peux ajouter juste un petit mot sur le Saint-Esprit ? Pour moi, la meilleure façon de parler du Saint-Esprit, c'est de citer la phrase qui m'a le plus marqué dans le document de la joie de l'Évangile. Il y a une petite phrase. Je crois que c'est à la fin du numéro 265 ou 266. Et cette petite phrase, le pape François nous dit, si on veut convaincre les autres, il faut être convaincu, il faut être certain, il faut être sûr, il faut être enthousiaste et il faut être amoureux. Et le mot a été dit, il faut être amoureux. Et être amoureux de Jésus, être amoureux dans le fond de son cœur, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est par la grâce du Saint-Esprit que tout d'un coup, cet amour prodigieux, infini de Dieu sur nous, nous envahit, nous inonde, nous submerge, et on est comme débordant d'amour de Dieu pour lui. Et parce qu'on est débordant d'amour, alors on va être inventif, alors on va être créatif, alors on va être intelligent, alors on va être fraternel, alors on va être indulgent. Mais à la base, par la grâce du Saint-Esprit, on est devenu amoureux de Jésus.
Merci Nicolas. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, Muriel ira vers vous récolter. Oui, je sais bien, mais... Non, allez-y, expliciter. Ah, c'est le fil. Très bien, merci. Je tiens le fil, c'est bon. Le micro devrait fonctionner. Donc Muriel va récolter vos questions. Il nous reste 10 minutes ensemble. Bien sûr, vous pourrez rencontrer les intervenants dans la foulée de notre intervention. Vous pourrez prendre contact aussi avec eux par la suite si vous le souhaitez. En attendant que les questions reviennent jusqu'ici, moi j'aimerais vous entendre sur cette thématique que nous avons abordée au début de notre table ronde, qui est, alors je résume en disant que la transformation pastorale s'est passée de la maintenance à une pastorale en sortie. Alors je crois que c'est James Malone hein, qui dit ça. Je cite James Malone sans le vouloir. Quand on entend ça, on pourrait se dire oui, mais c'est bien gentil, mais la paroisse, moi j'ai une bonne théologie et la paroisse c'est fait pour nourrir les catholiques. Donc une pastorale en sortie, je vais délaisser mes paroissiens. Qu'est-ce qui va se passer? Alors est-ce que vous pourriez me répondre?
J'ai le privilège d'être en début de ligne. C'est un beau cadeau. Voilà, c'est important le fil rouge. Hein. Voilà, oui. En fait, en engageant les chrétiens membres de notre communauté à être missionnaires, on les engage à se nourrir. Parce que la nourriture du chrétien, c'est de déployer la parole de Dieu qui est en nous. C'est de déployer l'amour de Dieu qui a été déposé en nous. C'est pas pour qu'on le garde. C'est pas pour qu'on en fasse un beau petit paquet avec un joli nœud. C'est fait pour qu'on le partage, qu'on le donne et qu'on invite largement pour le partager. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que lorsque Jésus, à la fin, au tout dernier moment de sa mission, il donne ses mots ultimes aux apôtres. Qu'est-ce qu'il le dit? Il le dit, vous allez recevoir une force et alors vous serez mes témoins. Il leur dit, allez, proclamez, évangélisez. Enseigner, c'est ça que le Seigneur nous demande. Donc pour moi, il n'y a pas de dichotomie. C'est pour être chrétien, il faut que je donne. Et en donnant, je deviens davantage chrétien.
Oui, comme ça là, c'est bon. Les paroissiens, ce sont les fidèles, ils sont baptisés et en effet, ils ont cette mission commune. Ce qui nous réunit tous, prêtres et laïcs, hein, c'est cette mission que l'on a en tant que baptisés, d'être des prophètes et cet appel à aller annoncer le Christ, l'amour de Dieu pour chacun et la clé de notre vie terrestre, j'ai envie de dire. Donc en effet, aller interroger le besoin de ceux qui sont loin n'enlève rien à la vie des fidèles. C'est plus, il s'agit vraiment d'une conversion à plusieurs niveaux. Hein. C'est-à-dire que on a parlé de la conversion personnelle, on a parlé de la conversion relationnelle. On peut parler de ce qui a trait. Quand je parle de relation, je parle aussi de cette relation entre prêtre et laïc dans cette collaboration qui fait grandir le prêtre, qui fait grandir les laïcs et c'est les collaborateurs les plus proches du prêtre sont ces quelques ou disciples missionnaires peut-être identifiés parmi justement les paroissiens. J'ai envie de dire historiques, qui ont fait cette rencontre du Christ et qui partent en mission. Ça peut être aussi évidemment des jeunes convertis. Voilà, donc il y a vraiment, je pense qu'il n'y a pas du tout de paradoxe entre se dire paroisse de paroissiens et ceux qui sont loin. Enfin, au contraire, c'est une communauté qui ne cesse de grandir, de se démultiplier par l'envoi en mission de chacun. Et oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, on part vraiment d'une logique de le pasteur de le pasteur des fidèles à vraiment entre guillemets accompagnateur de disciples missionnaires. Donc, on est vraiment dans un grand élan missionnaire qui emmène aussi les paroissiens.
Pour les jeunes, ils sont beaucoup moins craintifs que nous. Et du moment où on leur donne des outils, genre des camps, les PLVTT, etc., ils sont vraiment à même d'amener des jeunes des périphéries et non chrétiens. Ça leur pose pas vraiment de problème. C'est à nous plutôt de leur fournir un cadre qui permet ça. Voilà. Mais ils sont assez, ils osent, en fait, plus facilement que nous.
Juste une illustration dans ma propre vie. Un des points de conversion pour moi, ça a été ma façon de prêcher, de donner l'homélie le dimanche. Et je fais le constat que, en passant à peu près 5 fois plus de temps à préparer mon homélie et en ciblant l'homélie pour la personne qui est la plus loin, les chrétiens qui sont là depuis longtemps dans l'église s'y retrouvent et ils sont nourris. Je fais ce constat, en fait, simplement. Parce que j'essaye, c'est pas de l'homélie au ras des pâquerettes ou quelque chose de simpliste, parce que je m'adresserai à quelqu'un qui est loin et qui a besoin de... Non, la personne qui est loin dans la foi, elle est aussi intelligente que les autres, et donc il faut que je réponde à ses besoins, à ses questions, à ses interrogations, et quand j'y arrive, eh ben les autres, ils sont nourris aussi.
Je vous remercie. Avant de... Muriel est en train de synthétiser les questions. Avant de passer aux questions, j'aimerais en poser une dernière. Alors, je prends ceux qui me connaissent, savent que quand je fais intervenir quelques personnes, je les prends toujours un peu au dépourvu avec une question dont je ne leur ai pas parlé, mais qui n'est pas une question piège. Voilà, ça fait maintenant presque 3 quarts d'heure que nous échangeons sur la transformation pastorale. Vous nous avez dit de très très belles choses, donné de l'envie vraiment d'y aller là. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, mais à propos, ça sert à quoi en fait d'entrer en transformation pastorale? Parce que la pastorale, on peut la faire comme on faisait avant, il n'y a pas de souci. Ça sert à quoi? C'est un outil, la transformation pastorale, c'est pas une finalité. Alors à quoi ça sert? Alors là, je les prends au dépourvu. Hein. Donc il y a un petit temps de silence.
En fait, oser changer, c'est oser entrer dans une pastorale qui va rejoindre les hommes et les femmes là où ils sont aujourd'hui, dans un monde qui est chaotique, qui est difficile, qui est douloureux. Et les hommes et les femmes attendent une parole de vérité, attendent une parole de consolation, attendent une orientation qui va leur donner sens à leur vie. Et ce sont les chrétiens qui vont donner ça. Et aujourd'hui, je crois que nos communautés chrétiennes ont quelque chose à changer, quelque chose à bouger, quelque chose à déplacer pour arriver à apporter ces réponses, car il me semble qu'aujourd'hui, elles ne les apportent pas.
Le contexte impose le changement. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Enfin, nous étions il y a quelques dizaines d'années dans un monde, dans une société chrétienne à qui la paroisse, proposait ce dont les gens avaient besoin. Aujourd'hui, le monde est en effet connaît des bouleversements forts. On vient d'apprendre que c'est pas un scoop que 51% des Français se disent non croyants. Le chantier est grand et tout ce qui était fait et bien fait à un temps donné demande à être remis sur le métier et à être réinterrogé. Pour en effet aller toucher tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Enfin, il y a un enjeu. Enfin, pour moi, la transformation pastorale, c'est un enjeu de vie éternelle pour chaque homme de notre société.
C'est oser avoir une église en croissance dans la France d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est témoigner de la joie et de la paix qu'il peut y avoir dans nos communautés chrétiennes. Et aujourd'hui, c'est un témoignage vraiment qui passe pas inaperçu.
Pour moi, c'est un enjeu de vie, tout simplement. Le monde change. Et si nous ne changeons pas pour être toujours dans le monde, nous allons mourir. L'appel de Jésus, c'est que nous soyons le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, il est bon être jeté à terre.
Nous avons de super intervenants. Quand je pose une question qui n'est pas préparée, ils sont à fond. Merci Seigneur. Alors je prends vos questions qui sont très très intéressantes. On va avancer rapidement. Peut-être que simplement l'un d'entre vous répondra à chaque question parce qu'il est bientôt 30, donc les autres prêtres vont nous rejoindre. Donc j'ai une question qui est comment avez-vous fait pour élaborer une vision? la place du prêtre, quelle est-elle, et la place de la communauté. Alors, je ne sais pas qui a posé la question, je vous invite, sur celle-ci, on ne va pas donner de réponse maintenant, parce que je vous invite à rejoindre l'atelier de l'abbé Simon d'Artigues, oui, je l'ai noté, une vision paroissiale, pourquoi, comment, c'est un atelier qui aura lieu demain. Il a une expérience sur la paroisse cathédrale à Toulouse très, très intéressante. Voilà, vous pourrez trouver une réponse là-bas. J'ai donc une autre question. N'y a-t-il pas un risque d'avoir une paroisse dans la paroisse? C'est-à-dire qu'il y aura ceux, donc les paroissiens, qui sont engagés en transformation pastorale et les autres qui ne prennent pas d'engagement dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus d'une division dans la paroisse?
De toute façon, dès qu'on commence à vouloir changer et à vouloir grandir dans la vie, on prend des risques. Première chose. Donc si vous voulez pas prendre de risques, eh bien, faut pas changer. Et là, vous prenez le risque de mourir, en fait. Ensuite, le fait que tout le monde n'en soit pas au même niveau, ça fait partie de ce qu'on intègre dans la transformation pastorale, puisqu'on a parlé de processus de croissance. Et donc, bah, y a ceux qui en sont là, il y a ceux qui en sont là, il y a ceux qui en sont là, et il n'y a pas de jugement. C'est simplement que on va proposer des outils et des engagements différents aux personnes en fonction de là où elles en sont, pour leur permettre de faire un pas de plus, et puis surtout des outils qui soient à leur portée, là où elles en sont. Et ensuite, on va communiquer sur l'ensemble en disant « mais c'est là qu'on voudrait vous conduire, mais c'est vous qui décidez. Quand vous vous sentez prêt, quand vous êtes libre de faire ce pas, ben, vous pouvez le faire. » Et donc, en fait, il n'y a pas une élite et puis les autres qu'on laisse sur le bord du chemin. On marche ensemble, mais chacun en est là où il en est. Et puis, chacun est invité à avancer à partir de là où il en est. Et après, c'est la réponse de liberté de chacun. Mais en tout cas, personne n'est mis de côté, ça c'est clair. Parce que ça fait partie de cet ensemble. Il y a un regard global, y compris sur ceux qu'on ne voit jamais dans l'Église et qu'on veut rejoindre et qu'on veut pouvoir intégrer, justement, par l'évangélisation. Donc, il n'y a pas de jugement et chacun en est là où il en est.
Merci, frère Pierre-Yves. J'aurai encore une autre question qui va vous concerner. Donc, je vous la donne pour que vous puissiez réfléchir et on prendra la question de Nicolas en attendant. Donc, la question que je vous donne pour tout à l'heure, c'est « Un curé venu d'ailleurs disait à ses paroissiens « Ce que vous me proposez n'est pas dans ma culture. Comment lâcher sa culture d'origine pour accepter une culture nouvelle en Jésus-Christ ?» Voilà, je vous laisse y réfléchir et en attendant, je vais donner la parole à Monsieur Dechezel qui va nous lire la question et nous en dire quelques mots.
Alors, je lis la question. Les théologiens se bousculent sur les questions de terminologie autour du mot conversion pastorale. Finalement, l'Église ne joue-t-elle pas un jeu de séduction en maniant cette terminologie? Moi, il me semble que l'Église ne joue pas du tout la séduction. L'Église est réaliste. Et l'Église est fidèle à l'appel de Jésus-Christ. L'appel de Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 28, aller, prêcher, enseigner, éduquer. Et elle se rend compte qu'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, avec les problématiques d'aujourd'hui, il faut sans doute des pastorales adaptées. Et donc, elle comprend qu'il faut peut-être bousculer les habitudes pastorales, c'est ce que dit le pape François, accepter de bousculer nos habitudes, pour entrer dans une pastorale résolument et intentionnellement missionnaire. Il ne s'agit pas de jouer avec les mots, il ne s'agit pas non plus de séduire qui que ce soit, il s'agit d'oser entrer et d'oser faire face à une vraie question existentielle, une vraie question profonde que se posent les hommes et les femmes d'aujourd'hui et auxquelles l'Église se doit de répondre si elle veut rester pertinente.
Merci Nicolas. Je laisse la parole à Evelyne qui va aussi nous parler d'une question que nous avons reçue sur les jeunes.
Alors la question c'est, nous parlons des animateurs, mais les jeunes aussi nous étonnent. Signe de l'esprit qui travaille en eux, avez-vous des exemples? Alors oui, je vais vous en partager deux. Le premier, donc j'avais un jeune catéchumène, de 13 ans à peu près. Et il a perdu au cours de sa deuxième année son papa de façon très brutale. Ce jeune catéchumène, son père, ses deux frères aînés étaient athées et sa mère n'était pas hostile à la foi catholique, mais sans plus. il a demandé à ce que au prêtre à avoir au moins une célébration catholique pour son papa. Voilà, donc ce qui a posé beaucoup de questions aux adultes, etc. Mais par contre, les jeunes de l'aumônerie, tous les jeunes ont dit, ben nous, on veut bien s'en occuper. Et en fait, ce sont les jeunes qui ont fait l'accueil de la famille en deuil, qui ont mis en place l'orchestre, qui ont lu les textes, qui ont accompagné. Et là, je peux dire que oui. En fait, il y avait peut-être 300 personnes, hein, puisque la personne décédée était jeune, elle avait 50 ans à peine. Et ça a été un vrai témoignage de ces jeunes, spontanément, pour aider et accompagner au départ leur ami dans la foi. Le deuxième exemple, c'était donc on mettait un camp retraite hein, chaque année où on part chez des religieux ou des religieuses une fois des religieuses. Et là, cette fois-là, on avait décidé d'aller voir les frères de Maëlys. Et donc le camp de retraite concernait ceux qui préparaient un sacrement. Et là, un groupe de jeunes, d'une dizaine de jeunes, est venu me voir en me disant « Mais nous, on prépare pas de sacrement, mais nous, on veut venir. Hein. »« Ah bon, mais pourquoi faire ?»« Ben, pour approfondir notre foi. Non, mais nous, on veut venir. » Très bien. Donc, j'en parle au prêtre accompagnateur qui était extrêmement content, qui dit « Oui, oui, allons-y, parce que nous, on veut faire ça depuis... » Et on n'y arrive pas. Donc, c'est leur demande « Allons-y. » Et on a ouvert... Et de 15 jeunes, on s'est retrouvés à plus de 45 et on est arrivé chez les frères de Maëlys avec 45 jeunes entre 11 et 18 ans. Ils n'étaient pas très rassurés au départ, mais ça s'est très très bien passé, vraiment.
Merci Evelyne. Je vais laisser la parole maintenant pour la dernière question à frère Pierre-Yves. Je vous laisse lire la question.
Donc la question, je vous la relis. Un curé venu d'ailleurs disait à ses paroissiens « Ce que vous me proposez n'est pas dans ma culture ». Donc sa fin de citation, « Comment lâcher sa culture d'origine pour accepter une culture nouvelle en Jésus-Christ ?» Alors j'ai l'impression que dans cette question, il y a une petite ambiguïté sur le mot « culture ». Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « culture » Et peut-être il faut s'interroger si c'est une culture qui est liée à des moyens, à des façons de vivre liées à un lieu, à une histoire, à des habitudes, ou si ce sont des principes. Or, la conversion pastorale dont on parle en ce moment, qui est une conversion missionnaire, elle porte sur les principes et non pas sur les moyens d'application. C'est-à-dire que cette transformation missionnaire que nous sommes appelés à vivre, et encore une fois, pour moi, c'est vraiment ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, elle va s'appliquer différemment si je suis dans le quartier de Rangueil, Bellefontaine, si je suis dans le rural, si je suis dans un quartier populaire, un faubourg comme moi, ou dans le centre de Toulouse. Les moyens d'application sont différents. Mais tandis que les principes, on les reçoit de l'Évangile, on les reçoit de l'enseignement de Jésus, on les reçoit de l'appel de Jésus, donc de toute la théologie catholique qu'on étudie à longueur et à longueur d'année dans ce beau séminaire ou ailleurs. Et cette théologie, elle se décline en principes, et les principes eux-mêmes se déclinent en moyens d'application. Les moyens dépendent des circonstances du terrain. Mais les principes, c'est là qu'on a besoin de vivre une conversion. Parce que on a perdu largement un des principes fondateurs et vivifiants de l'Église, qui est que l'Église est faite pour la mission. Le pape Paul VI nous le rappelait avec sa force, avec son génie, que l'Église est faite pour évangéliser. Mais si vous regardez vos paroissiens, y compris les miens, hein, si vous commencez à demander pourquoi existe l'Église, ils vont pas vous répondre tout de suite que c'est pour évangéliser. Et donc il y a un problème au niveau de la culture missionnaire, en fait, de notre Église, en Occident en particulier. Et donc c'est ça qu'il faut réévangéliser, c'est ça que j'appelle la conversion missionnaire. Et donc ça porte pas du tout sur le fait qu'on chante avec des guitares ou bien qu'on fasse de l'immersion dans un milieu populaire sans annoncer le Christ ou je sais pas quoi. Du moment que l'intention est missionnaire, après peu importe les moyens. Peu importe les façons dont ça se décline, peu importe que ce soit en France, en Afrique ou ailleurs où on va avoir encore des choses différentes. C'est l'intention missionnaire en réponse à l'appel de Jésus. C'est ça qu'il faut convertir en ce moment.
Merci beaucoup, frère Pierre-Yves. J'espère que notre table ronde vous aura éclairé. Peut-être que vous repartez avec encore plus de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact. Et on échangera, parce qu'on n'a pas non plus toutes les solutions. Hein. On trouve les solutions ensemble. Je remercie beaucoup nos intervenants qui, pour certains, se sont déplacés de loin. Et il me reste à vous souhaiter une bonne suite dans le congrès Mission. Merci à tous.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.